Au départ, j'étais intéressée par la question de la poésie proférée et au fur et à mesure voilà, des lectures et des rencontres, je me suis aperçue que Paris, dans cette période historique, avait été un laboratoire majeur justement de la profération. Et du coup, dans le cadre de cette recherche-là, je me suis retrouvée à retracer un fil rouge qui partait notamment d'Antonin Artaud quand il rentre à Paris en 1946 après 9 ans d'internement asilaire, qui passe par les lettristes qui aboutit dans les années 50-60 avec toute une constellation de poètes qui ont donné vie à justement ce qu'on appelle depuis cette époque-là la poésie-action. Et alors, quelque chose qui relie un peu toutes ces recherches, c'est effectivement la question de la vulnérabilité, même si au moment d'écrire ma thèse, ce n'est pas un mot que j'ai employé moi-même. Mais effectivement, chez tous ces poètes, même si à chaque fois, évidemment, de manière extrêmement différente, il y a comme un double, voire un triple mouvement qui part d'une expérience de souffrance ou de... et ou de malaise vis-à-vis d'une époque précise, et qui va chercher en même temps une mise en vulnérabilité. Ils vont retrouver le corps et du coup une sensation accrue. Et par là, ils vont justement s'émanciper, exorciser. Voilà, le terme exorcisme, c'est un terme qui revient de manière, je répète, très différente, mais chez Artaud, chez beaucoup de lettristes, et puis chez toute cette constellation de poètes, Henri Chopin, Bernard Haitzig, Gerasim Luka, même si évidemment ils explorent différemment cette question-là, mais voilà, le terme exorcisme, c'est quelque chose qui revient comme un leitmotiv. Et effectivement, ces poètes élaborent dans ces années-là qui sont marquées par l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, voilà, c'est l'époque des Trente Glorieuses, la guerre d'Algérie et la montée du contexte capitaliste comme on peut le connaître encore aujourd'hui. Et voilà, ils élaborent un rapport à l'autre, un rapport à soi, qui essaie défaire les séparations de l'époque. Il y a cette phrase d'Artaud qui a été exhumée en 1953. Alors, si l'on suit la légende, il y a eu un lettriste, Serge Bernin, qui, dans des poubelles du 6e arrondissement, aurait trouvé un manuscrit non publié de Artaud qui s'appelle Le Mexique et la civilisation, qui a été publié en 1953 aux éditions Arcane sous le titre Vie et mort de Satan, le feu. Alors il y a cette phrase qui dit: une civilisation pour qui il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre risque de voir à bref délai se détacher les liens qui unissent ces deux réalités dissemblables. Donc Artaud, c'est une phrase d'Artaud. Et on pourrait mettre cette phrase vraiment comme pour exergue de toutes ces expériences de profération qui précisément travaillent à cet endroit de séparation entre le corps et l'esprit, et c'est comme en quelque sorte de réparer cette séparation au fondement d'une certaine culture occidentale. Et alors, je vais aller très rapidement parcourir un peu je vais un peu reparcourir ce fil rouge, évidemment mettant de côté énormément d'exemples d'artistes, mais pour rappeler brièvement ce qui se passe avec Artaud quand il rentre à Paris en 1946. Artaud, vous savez, il était extrêmement connu quand il rentre à Paris. C'est un mythe vivant. C'est quelqu'un qui revient justement après cette expérience de 9 ans d'internement, mais qui revient aussi après la guerre. Donc il y a cette double césure. Et donc il y a beaucoup d'attention qui est tournée vers sa personne. Et chez un peu toutes les générations, mais notamment chez les jeunes poètes. Et donc, ils vont être extrêmement attentifs à tout ce qu'il fait. D'ailleurs, il va être suivi par plusieurs poètes, dont les lettristes, dans les bars, dans la rue, etc. Mais ils vont aussi l'écouter dans des manifestations publiques. Parce que, justement, dans ces 2 années qu'il lui reste à vivre, Artaud va faire une conférence ou non-conférence au Vieux Colombier, mais il va faire aussi des lectures à haute voix, lui, et accompagné par des acteurs avec qui il travaillait. Et alors, à ce moment-là, il transmet son théâtre de la cruauté, mais qui est renouvelé par rapport aux années 30, par rapport aux années d'avant la guerre. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Artaud centre toute sa recherche théâtrale et poétique. À ce moment-là, Artaud ne distinguera plus entre poète et acteur et concentrera toute sa recherche sur la question du souffle, de la voix, de l'invention langagière. En fait, à partir, au moins, c'est les traces que nous avons, mais peut-être qu'il a commencé avant, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir des dernières années de son internement à Rodez, Artaud met en place toute une pratique de la profération, qui est une pratique qui lui sert pour se reconstituer, mais se reconstituer radicalement, parce qu'Artaud va même dire qu'il s'agit de se refaire un corps. Voilà. Et c'est là qu'il va élaborer sa notion de corps sans organes, qui sera reprise, comme nous le savons, par Deleuze après, et par un pan de la philosophie française. Et donc, il s'agit de se refaire un corps, mais aussi de refaire toute une époque, quelque part. C'est-à-dire qu'à travers ce travail de profération, un peu comme un chaman qui se auto-guérit, justement, et qui, par là, est capable de guérir toute une époque. Anne parlait tout à l'heure de cette expression « réparer le monde ». Au fond, peut-être que il y a cette question d'une même au-delà d'une réparation, il s'agit carrément de transformer, de révolutionner. Il y a beaucoup le mot de révolution qui intéresse Artaud. Ce mot-là apparaît dans les écrits d'Artaud pendant son époque surréaliste, dans 25. Et c'est un mot qui, comment dire, c'est une réflexion qui évolue au cours des années. Au départ, il s'agit de révolutionner l'esprit, et c'est d'ailleurs une des raisons principales de sa rupture avec le surréalisme, mais je ne veux pas trop dériver. Puis ça devient révolution de la culture, et dans ces années 40, la révolution pour Artaud doit être une révolution du corps. Voilà. Il y a des passages qui peut-être ont été lus au Vieux Colombier où Artaud dit c'est parce qu'on a toujours oublié le corps que toutes les révolutions qui ont été faites ont échoué. Voilà. Donc il dit il faut repartir du corps, ne pas oublier le corps de la bagarre. Je crois qu'il y a une expression qui va par là. Voilà. Et en fait, pour en finir avec le jugement de Dieu, la célèbre pièce radiophonique de 47 qui a été censurée avant même sa diffusion, le jour même prévu pour qu'il soit diffusé, et qui sera censurée pendant plus de 20 ans, jusqu'à 74, donc presque 30 ans. Bref, pour en finir avec le jugement de Dieu va être l'œuvre qui, quelque part, témoigne encore jusqu'à nos jours de cette période particulière de la recherche d'Artaud, centrée justement sur l'oralité. Et même si cette pièce a été censurée, en fait, des copies pirates ont circulé. Ont circulé dans le réseau des poètes et des artistes de l'époque, notamment grâce à Jean-Jacques Lebel, artiste, performeur, qui a d'ailleurs fait venir beaucoup d'Américains à Paris. Et voilà, Jean-Jacques Lebel, qui avait une amie à la radio, a pu s'emparer de la copie de Pour un film avec le jugement de Dieu, et puis la faire circuler parmi ses amis et son réseau. Voilà. Et donc, nous sommes à Paris dans l'après-guerre. Artaud meurt tout de suite après, pour en finir avec le jugement de Dieu. Peut-être que cette censure a eu d'ailleurs une répercussion dans cette mort. Il était très malade. Et en même temps, il y a tout un contexte où la poésie phonétique et la poésie plus généralement à proférer suscitent de plus en plus d'intérêt. Et donc, il y a des publications deux anthologies, notamment La poésie naturelle, éditée par Camille Bryan, et La poésie des mots inconnus, éditée par Iliasde, où il y a justement plusieurs expériences de poésie phonétique ou à proférer qui sont publiées. Haussmann, Klebnikov, Schwitters, Sofort, Tsara, et Artaud se retrouve publié en milieu de tous ces poètes-là. Et en même temps, il y a les publications lettristes. Et alors, le lettrisme est un mouvement qui a été fondé tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été fondé par quelqu'un qui s'appelait Isidore Isou. Il y a eu récemment une exposition au Centre Pompidou l'année dernière qui a permis un peu de faire connaître plus largement le travail d'Isidore Isou qui a été mis longtemps dans l'ombre. Et alors Isidore Isou, poète roumain, qui arrive justement de Bucarest en 1945 à Paris, avec des valises remplies de manuscrits qu'il voulait faire publier, alors qu'il a à peine 20 ans, d'origine juive, très important, fonde avec un autre jeune poète, Gabriel Pomeran, lui aussi d'origine juive, ce mouvement, le lettrisme, qui, tout d'abord, veut explorer le domaine de l'oralité. Et donc, lettrisme vient du mot « lettre ». Pour le lettriste, il s'agit de déconstruire le langage, et de l'anatomiser, comme ils disent, en lettres. Alors, on pourrait dire tout de suite... Isidore Isou dit « la lettre, c'est l'unité du langage ». Et la lettre, en fait, ça lui permet en fait, de travailler en termes de voix et en termes de son. D'abandonner le sens et pour aller vers un entendement auditif, comme il dit, pour aller vers le corps. Et alors, on pourrait dire, évidemment, d'un point de vue linguistique, ce n'est pas la lettre qui est l'unité du langage, c'est le phonème. En plus, voilà, la linguistique, il aurait pu le savoir. Mais en réalité, ce n'est pas une erreur. C'est un choix, presque idéologique, je dirais, parce que par la lettre, il y a un renvoi à une culture spécifique, à savoir la culture de la Kabbale. Voilà. Où justement il s'agit d'anatomiser le langage. C'est une expression qu'Umberto Eco emploie justement pour parler de la Kabbale. Pour faire quoi? Pour retrouver l'ordre juste des lettres de la Torah qu'on aurait perdu après le péché original. Et donc il s'agit de retrouver la parole de Dieu, une parole qui est une parole performative, puisque Dieu, quand il parle, il crée. Alors, il y a vraiment sous-jacent, et même plus que sous-jacent, cette référence-là. Les lettristes, d'ailleurs, Isidore Isou écrit une autobiographie à 20 ans, où il se présente comme le nouveau Messie. Donc, il y a avec à la fois de l'humour et du sérieux. On ne peut jamais le rattraper, Isou, par rapport à cette question-là. Il est toujours... on ne sait jamais dans quelle mesure sa mégalomanie est réelle ou feinte. Très probablement les deux. Et voilà, donc il s'agit rien de moins de retrouver en fait un langage qui soit performatif, donc dans le sens vraiment de création, un langage action. Et alors cette recherche-là, on la comprend dans le contexte particulier qui est celui de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le lettrisme va rallier rapidement beaucoup de jeunes poètes. Alors, dont la plupart sont d'origine juive et dont une bonne partie a fait aussi la résistance. Et donc, chez les jeunes lettristes, qui ont donc tous une vingtaine d'années en 1945-1946, ils ont affaire avec une double mémoire. Une mémoire tragique, celle évidemment de l'Holocauste, mais aussi la mémoire liée à la résistance avec la déception de ne pas avoir vu les idéaux révolutionnaires de la résistance eh bien, se concrétiser une fois la guerre terminée. Donc, ils ont cette double héritage à travailler et en même temps le sentiment de se sentir complètement hors place, marginalisé dans le contexte d'après-guerre. Ils ont l'impression que notamment le territoire culturel est complètement, ficelé, complètement sans place pour eux. Vous vous souvenez, il y a d'un côté les temps modernes de Sartre, fondés justement tout de suite après la guerre. Il y a aussi le cercle littéraire lié au PCF, dirigé en quelque sorte par Elsa Triolet et Louis Aragon. Donc il y a d'ailleurs un cercle, le CNE, que les lettristes fréquentent, et les lettristes lecteurs aussi beaucoup de Sartre. Voilà. Mais du coup, et troisième élément, beaucoup de avant-gardistes d'avant la guerre sont présents, encore présents à Paris. Il y a Tzara qui est présent, il y a Eliast qui est là, il y a Breton surtout qui est là, et Breton qui a eu une extrême importance pour eux. Et donc, à la fois, tous ces grands maîtres, on va dire, vont d'ailleurs organiser des expositions. Breton va organiser une grande exposition sur le suralisme. D'ailleurs, il invite Artaud, et Artaud refuse d'y participer, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? On va mettre dans le musée maintenant, si je vulgarise un peu sa réaction. Et donc, c'est un contexte à la fois très stimulant, parce qu'il y a tous ces gens, on pourrait dire, et en même temps, la sensation, c'est que le territoire est complètement saturé. Et alors, les lettristes, ils veulent s'émanciper de cette marginalisation. Et ils vont même dire que leur situation de marginalité, d'exclusion, en fait, ne concerne pas uniquement eux, mais toute leur génération. Ils disent, nous n'avons plus notre langage. Nous n'avons pas notre langage à nous. On parle à travers le langage d'une autre époque, de ceux qui ont des vétérans de la résistance. Il y a cette phrase d'Isidore Isou dans l'ouvrage fondateur du lettrisme, Introduction à une nouvelle poésie, à une nouvelle musique, qui dit « Le mot résulte du besoin de déterminer, aide les vieux à se souvenir en obligeant les jeunes à oublier. » Donc cette phrase est vraiment un peu, comment dire, la clé pour comprendre cette opération de déconstruction du langage et de réinvention, au fond, d'un autre langage. Parce que pour le lettriste, il s'agit de s'éloigner du sens connu, mais pour retrouver le vrai sens, entre guillemets, à rebours, justement, en repassant précisément par le corps. Les lettristes vont fonder assez rapidement en 50 un groupuscule politique, un mouvement politique, le Front de la Jeunesse, inspiré beaucoup d'un livre d'Isidore Isou sur l'économie qui porte comme le sous-titre Le Soulèvement de la Jeunesse, livre publié tout de suite après la guerre. Et donc, dans le Front de la Jeunesse, il s'agit pour les lettristes de rallier toute la jeunesse qui n'est pas défini par l'âge, mais par la condition d'exclusion, de marginalité, justement. Donc même quelqu'un qui n'aurait plus l'âge biologique d'être jeune, mais qui serait exclu, eh bien, il peut se rallier au Front de la Jeunesse. Et les lettristes disent que les lettristes sont le corps de la jeunesse. Et alors, c'est une image importante, parce que justement, ce n'est pas anodin qu'ils se disent le corps de la jeunesse, parce que justement, pour eux, il s'agit de repartir du corps pour retrouver un rapport intégral avec la réalité. Et alors, pour les lettristes, l'oralité est un moyen aussi pour faire concrètement irruption dans l'espace public. Les lettristes peuvent être souvent connus justement pour les scandales qu'ils aimaient faire. Et donc, par exemple, l'acte un peu fondateur du lettrisme, ça a été quand Gabriel Pomeran et Isidore Isou interrompent au Vieux Colombier une pièce de Tzara, La Fuite, en Non, ils interrompent Michel Leiris, qui fait une introduction à la pièce de Tsara, La Fuite. Gabriel Pomeran qui se lève et dit « Dada est mort, vive le lettrisme ». Voilà. Et après, il part sur une profération phonétique. Parce que vous devez vous imaginer les poèmes lettristes comme des poèmes phonétiques, tout simplement. Il y a un bel exemple de François Dufresne, avec un poème qu'il a composé à 16 ans, qui s'intitule « J'interroge et j'invective à la mémoire d'Antonin Artaud ». Et vous le trouvez facilement sur YouTube. C'est un extrait du film expérimental d'Isidore Isou, Traité de Babe et d'éternité. Et alors, ils font irruption, les lettristes, dans les espaces publics. Ils organisent aussi des récitals et ils font aussi irruption, enfin, ils intègrent plutôt des moments sonores dans les boîtes de nuit de l'époque, le Tabou, par exemple, de Saint-Germain-des-Prés, où il y avait des concerts de jazz, notamment l'orchestre de Boris Vian. Voilà, les lettristes interviennent dans ce contexte lettriste pour créer à leur tour des compositions phonétiques, ce qui leur permet de travailler l'improvisation. Et en fait, c'est dans ce contexte d'improvisation que les premières défections lettristes commencent. Il y a deux poètes en particulier, François Dufresne et Gilles Givolman, qui se propose assez rapidement, je les cite, de « attenter la lettre », donc d'en finir avec la lettre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent radicaliser en fait, la quête de performativité qui était propre à Isidore Isou pour aller en deçà de tout son articulé, de tout son du langage, donc... parce que les poèmes phonétiques, même s'ils veulent rien dire, enfin, même s'ils ne sont pas une langue connue, rappellent toujours une langue. C'est comme une langue imaginaire. Alors que Gilles Givolman et François Dufresne, ils essaient d'aller en deçà, justement, de tout langage pour travailler avec les sons du corps. Et alors, Gilles Givolman va faire ce qu'il appelle « mégapneum ». Donc des poèmes à base de souffle, où il s'agit pour lui de quelque part se mettre le plus près du dedans du corps, le plus près des poumons, pour essayer de se mettre, comment dire, à l'origine de toute profération, le souffle. Et alors, vous avez un exemple de mégapneum à la fin de son film expérimental, L'Anticoncept, qui est un titre justement très significatif, parce que pour Volman, il s'agit justement de ne pas être dans le concept, de être radicalement dans le corps. Et donc, c'est l'extrait que vous pouvez entendre dans la fin de ce film expérimental. Et l'intéressant, parce que Volman va faire aussi des manipulations avec la bande magnétique. Et par là, inaugurer toute une pratique expérimentale avec les technologies du son. François Dufresne, lui, va faire des cris rythmes. Donc, il va mettre en rythme d'écrit, on va dire. Et à propos de cette recherche, il y a un poème qui s'appelle « Paix en Algérie », donc qui est un peu postérieur, donc des années 50, qui est un poème particulièrement intéressant à cause du titre, justement. Parce que nous sommes en pleine guerre d'Algérie. Vous savez qu'à l'époque, le terme « guerre » était interdit. Je crois que ça a été interdit jusqu'aux années 90, quelque chose comme ça, non ? En tout cas, qu'on a reconnu que c'était une guerre assez tardivement. En tout cas, à l'époque, c'était un terme interdit. Et dans ce poème, « Paix en Algérie », qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, on entend des sons de guerre. Mais des sons de guerre faits par Dufresne, puisqu'on entend sa respiration. Alors, c'est des sons qui sont manipulés à la bande magnétique. Donc, ils sont, c'est des sons humains défamiliarisés, irréconnaissables, qui renvoie justement au bruit de bombardement. Et en même temps, on entend que c'est un homme qui le fait, parce qu'on entend que la respiration de Dufresne. Donc il y a comment dire, une mise en corps de la guerre, et en même temps, il n'y a pas de langage à l'intérieur, et en même temps, il y a un titre qui contredit « Paix en Algérie ». Vous voyez, donc il y a comme un double mouvement de mise en corps de quelque chose qu'on a refoulé au niveau de la société, mais qu'on veut faire entendre quand même, qu'on rend public, puisque c'est un poème qui est fait pour être diffusé. Voilà. Pour aller vers la conclusion, Gilles J. Volman et François Dufresne, qui font cette plongée radicale dans le corps, ils emploient la technologie du son, notamment le magnétophone, paradoxalement pour être le plus près du corps. Pourquoi ? Parce que pour eux, le magnétophone est une manière de se passer de l'écrit. Dufresne dit « j'emploie le magnétophone pour justement pouvoir être que dans l'improvisation. J'enregistre et puis je travaille avec ce matériau-là. Mais je ne passe pas par le cri, parce que dans cette conception-là, l'écriture, ce serait une séparation. » Voilà. Évidemment, c'est une conception qu'on pourrait discuter ô combien, mais à ce moment-là, il y a vraiment cette idée-là. Et en même temps, entre parenthèses, Dufresne ne va pas vraiment abandonner l'écrit, il va même faire tout un pan de sa recherche, va être basé justement sur des poèmes écrits qui jouent sur l'ambivalence entre la lecture et puis la profération. C'est quelqu'un qui adorait faire des calembours, des contrepréteries, à la brisée, etc. Donc, il ne va pas vraiment abandonner l'écrit. Mais dans cette recherche d'écrit-rythme, ce qu'il affirme, c'est que, justement, le magnétophone lui permet d'être au plus près de son corps. Et alors, pour terminer, Henri Chopin, c'est celui qui a inventé le mot « poésie sonore », va justement reprendre ses recherches et faire du microphone et du magnétophone, mais surtout du microphone, un moyen d'exploration de l'intérieur du corps. Donc le microphone comme une sonde qui, comme un peu un long travelling, ferait écouter toute la plurivocité de la voix, tout ce que, en général, est exclu de la voix parce qu'on se focalise sur le sens. Alors que dès qu'on parle, il y a une pluralité de sons, qui anime la profération, mais que notre écoute va exclure pour se focaliser justement sur le sens premier des mots. Et alors Chopin, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, il a, c'est comme un hymne du corps et de la vie par rapport à une expérience qu'il a faite, l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, où il s'est retrouvé, en fait, au départ, emprisonné dans un camp de travail en Allemagne. Alors, c'est assez rocambolesque, les raisons pour lesquelles il se retrouve en Allemagne. On ne va pas maintenant voir ça en détail, mais voilà, il se retrouve dans un camp de travail en Allemagne. Il y arrive à échapper. Il se retrouve, on ne sait plus comment, en Russie. Il va rencontrer énormément de cultures différentes. Et en même temps, il va voir beaucoup de morts autour de lui. Et donc, lui, quand il va commencer à faire ce qu'il appelle la poésie sonore, c'est justement pour se détacher de ce qu'il appelle le verbe, avec un V majuscule. Parce que pour lui, le verbe, de manière un peu manichéenne, évidemment, c'est toujours l'instrument d'une dictature, pour s'intéresser à tout ce qu'on exclut du langage et tout ce qu'on ne peut pas enfermer dans les mots, justement. Et donc, et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il va travailler beaucoup avec les manipulations de la bande magnétique. Et du coup, ses poèmes, même s'ils sont à la base uniquement de son souffle, de tous les sons du corps phonatoire, sont très dépaysants. Parce qu'on, si, peut-être si on ne sait pas que c'est un homme qui est en train de faire tout ça, on se dirait, bon, c'est des sons, je ne sais pas, de un environnement étrange. Voilà, c'est un peu une sorte de, comme à l'image, voir une image au microscope. Voilà, lui, il fait la même chose avec le son. Alors, peut-être pour conclure, on pourrait faire entendre justement un poème d'Henri Chopin. Parce que justement, ce que Chopin met en avant, c'est la célébration de la vie. Dans et avec le corps, un corps qui n'est qu'un corps, vulnérable, mais vibrant, bruyant, et qui fait entendre toute sa multiplicité et pluralité. Voilà, vibre espace. Mais voilà, tout ce que vous venez d'entendre, c'est lui avec sa langue, c'est la salive, le souffle, les sifflements.
Tout est corporel.
Tout est corporel. Après, il manipule avec la bande magnétique.
Oui.
Mais comment dire, il ne va pas travailler son son avec d'autres sons. C'est uniquement la matière de son corps, voilà, de son corps sonore.
Merci beaucoup.
Merci.